parents et enfants autour de la table. C'est l'heure de jouer. C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique, votre émission consacrée aux jeux de société modernes. Alors à quelques jours du départ du Tour de France et de sa venue notamment chez nous en Bretagne, à Perros-Guirec, je vous présenterai un jeu de vélo que tout le monde parle en ce moment et qui est au sommet des ventes. C'est bien entendu le petit jeu de cartes Vélomino. Avant-première, prenez le rôle de fermier pour nourrir des lamas avec Lamaland. L'indispensable de cette semaine, c'est tout simplement mon gros coup de cœur, peut-être même mon jeu numéro 1. Il s'appelle Wingspan et vous envoie dans un monde peu exploité dans la thématique des jeux de société, les oiseaux. Et d'ici quelques minutes, il sera mon invité Sébastien Pochon, co-auteur de Sobek 2 joueurs. Le jeu que je vous présente tout de suite, c'est Ludique numéro 107 et avant-dernier numéro de la saison. Ça commence maintenant.
C'est Ludique, c'est l'heure de jouer.
Et oui, c'est l'heure de jouer. Le dieu Sobek que l'on reconnaît avec sa tête de crocodile est le dieu de la corruption. Une nouvelle fois après Fertility et Pharaon, Catch Up Games, l'éditeur, nous emmène en Égypte en nous proposant Sobek 2 joueurs, un jeu de Bruno Catala et Sébastien Pochon. Alors Sébastien, qui sera d'ici quelques minutes dans C'est Ludique. Avec lui, on reviendra notamment sur la différence entre Sobek, sorti en 2010, et cette réédition de joueurs. Alors dans Sobek 2 joueurs, vous allez être des marchands et vous allez essayer de vendre un maximum de lots de marchandises identiques. Mais attention, car pour récupérer les meilleures marchandises, les joueurs vont se corrompre. Et celui qui aura trop de corruption en fin de partie donnera des points à son adversaire. Alors avant de vous expliquer comment jouer, on va faire le tour du matériel. Des tuiles marchandises et personnages de très bonne qualité, un plateau, des tuiles pirogues qui vous donneront des bonus et il ne faut pas oublier le pion Ankh qui vous donnera la direction. Le tout illustré par Nayad dans un esprit cartoon. Alors au départ, vous placez les tuiles pour remplir le plateau de 6 par 6 dans un ordre particulier en commençant par le centre. Mais alors comment on joue? Chaque joueur aura 2 tuiles marchandises pour commencer et peut faire à son tour une action parmi 3. Soit on peut prendre une tuile du plateau marchandise ou personnage, mais il faut prendre cette tuile en suivant l'alignement du pion Ankh, hein, soit à la verticale, soit à l'horizontale, soit en diagonale. Une fois que vous avez pris la tuile marchandise, vous regardez quelle est son orientation et vous placez le pion Ankh en conséquence pour le tour de votre adversaire. Si c'est une tuile personnage, dans ce cas vous placez l'Ankh comme vous le souhaitez. Si vous prenez une marchandise qui se trouve à côté du pion Ankh, pas de souci. En revanche, dans le cas où vous prenez une tuile dans l'alignement du pion Ankh, mais un peu plus éloigné, bien toutes les tuiles que vous avez sautées, vous devrez les prendre et les mettre sur votre plateau corruption. C'est pas cool, mais c'est comme ça. Si à un moment de la partie, vous ne pouvez plus prendre de tuiles selon l'orientation de l'Ankh, vous devrez en remettre en suivant l'ordre du plateau. Deuxième action possible, jouer une tuile personnage. Alors là, c'est simple, hein, vous jouez son pouvoir immédiatement et défausser la tuile. D'ailleurs, contrairement aux marchandises, hein, les personnages sont face cachée sur le plateau. On ne sait donc jamais sur lequel on va tomber, mais il y en a plutôt des sympas qui vous permettront notamment d'avoir des marchandises gratuitement. Et enfin, la troisième action, c'est bien beau de récupérer des marchandises, mais il va falloir les vendre pour que ça rapporte de l'argent. D'ébène, mais vous ne pourrez les vendre qu'au moment où vous avez 3 marchandises minimum identiques, par exemple 3 poissons. Et pour le calcul, on additionne le nombre de marchandises que vous avez par série que l'on multiplie par le nombre de scarabées présents sur les tuiles. Exemple, vous avez 5 tuiles de blé, avec dessus au total 3 scarabées, ça vous fait 3 x 5, 15 points. Dès que vous vendez des marchandises, vous pourrez récupérer un bonus grâce à une tuile pirogue. Et l'avantage d'être le premier, c'est que vous avez le droit de regarder toutes les tuiles pour choisir celles qui vous intéressent. Moi, je vais prendre celle qui ajoute 2 scarabées supplémentaires à ma collection, ou des débènes en plus. J'hésite, hein. 2 petites minutes, je vais vous parler des débènes, l'argent du jeu. Quand toutes les tuiles pirogues ont été récupérées, il n'y aura plus de bonus lors de vos prochaines ventes de marchandises. Alors ne traînez pas à vendre. Si jamais vous récupérez des statues Sobek, c'est plutôt une bonne nouvelle car elles remplacent n'importe quelle tuile marchandise. C'est comme un joker, hein. Et puis un personnage peut aussi remplacer une tuile marchandise de sa famille, mais dans ce cas, il n'aura plus de pouvoir. Faut donc choisir. La partie s'arrête quand vous avez épuisé la pioche des tuiles ou que vous ne pouvez plus faire d'action sur le plateau du marché. Ou que vous n'avez plus rien à vendre, ou si aucun personnage ne peut vous venir en aide. Puis on va calculer toutes vos séries de marchandises, marbre, bétail, ivoire entre autres, on regarde aussi la corruption. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que c'est pas de bol, mais les marchandises non vendues vont dans votre corruption. Le joueur avec le moins de points de corruption gagne un jeton d'ébène, plus un jeton d'ébène supplémentaire pour chaque tranche complète de 3 points de corruption qu'il a de moins que son adversaire. Tous les jetons sont piochés dans un sac et sont de valeurs différentes. Vous allez peut-être piocher un jeton 3, mais c'est sûr, c'est mieux si vous piochez un jeton 8. Sur les jetons pirogue, il y a aussi des d'ébène. On additionne tout et celui qui a le plus de points l'emporte. Dans Sobek 2, votre objectif est d'être plus riche que votre adversaire sur le marché. Pour cela, prenez les bonnes marchandises et choisissez les bons personnages. Et puis, évitez d'avoir trop de corruption. Facile à dire, non? Un Sobek 2 joueurs, certainement avec Botanique, le meilleur jeu à deux de ce premier semestre. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est le même auteur. Allez, on retrouve Sébastien Pochon juste après Pink avec Comer Me Sunshine sur Millennium. A tout de suite.
C'est Ludique, l'invité de la semaine.
Cette semaine, je reçois Sébastien Pochon, co-auteur du jeu Sobek 2, hein, qui sort dans quelques jours, mais co-auteur aussi du jeu Botanite, sorti en début d'année. Et puis Sébastien Pochon, c'est aussi l'auteur de Jaipur, notamment. Bonjour Sébastien, merci d'être sur Millennium.
Salut, merci bien de m'accueillir.
Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je crois même que tu as été champion de billard.
D'accord. Oui, alors Sébastien Pochon, c'est mon nom juste, effectivement, donc je suis suisse. J'ai été champion de billard, effectivement, dans une autre vie, il y a bien longtemps. Et depuis une quinzaine d'années maintenant, je suis dans le monde du jeu. Donc, je suis auteur, éditeur de jeux.
Ouais.
Et puis, ben voilà, je fais plus que ça depuis une quinzaine d'années.
Alors, tu as fondé ta propre maison d'édition, Gameworks, mais aujourd'hui, tu es plus développeur pour Space Cowboys?
Non plus. Alors effectivement, à l'origine c'était Gameworks, puis j'ai fait partie du quintet de départ de Space Cowboys.
Ouais.
Après j'ai effectivement développé pour Space Cowboys, et maintenant je fais un peu plus de jeux en tant que auteur ou plutôt co-auteur.
Plutôt co-auteur, ouais.
Ayant encore des acquaintances assez fortes avec Space Cowboys, effectivement.
Alors justement, c'est Gameworks qui avait édité Sobek cette fois-ci, donc c'est Sobek de joueurs chez Catch Up Games. Est-ce que Sobek manquait aux joueurs? Est-ce que tu as ressenti ça, toi?
Moi, un petit peu, mais c'est surtout Bruno qui a eu pas mal de demandes. Bruno Catala,
ouais.
Je pense, l'auteur principal de Sobek, et puis qui m'a invité ensuite sur le projet Sobek 2. Et lui a eu plusieurs fois des demandes à ce sujet. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est présenté comme ça, en fait, j'ai envie de dire.
Et plutôt que de faire une réédition de Sobek, vous avez décidé avec Bruno de faire une nouvelle version. Pourquoi?
Le jeu à deux de Sobek fonctionne, mais a quelques lacunes une fois qu'on joue beaucoup. Ça s'est notamment révélé avec le jeu en ligne où on voit qu'il y a beaucoup de parties qui se jouent.
Ouais.
Et puis, c'était l'occasion de faire une version ciblée de joueurs. Et puis, c'est l'air du temps, la mécanique elle est bien pour ça, le plateau qui... comme il est aujourd'hui, bah, c'est devenu un jeu de tuiles, mais qu'on ramasse sur un plateau, alors que Sobek était un jeu de cartes. Un affrontement plus direct à deux, et puis ça s'est taillé comme ça, en fait, au final.
Et du coup, cette version ne marchait pas pour quatre joueurs?
Non. Enfin, après, on peut toujours trafiquer,
ouais.
Sans doute, mais c'est vraiment à deux que ça prend tout son sel, parce que chaque fois que je prends une tuile, je force un peu la main du,
ouais,
joueur suivant, et c'est plus intéressant que ce soit mon adversaire qui, en retour, me force la main, plutôt que ça tourne et que j'ai finalement peu d'influence sur les autres joueurs. Donc là, on a vraiment un dialogue et une confrontation qui est beaucoup plus intéressante.
Donc l'initiative de ce retour de Sobek, c'est Bruno Catala. Du coup,
oui.
il t'a appelé, t'as dit il faut qu'on refasse un Sobek.
Oui, plus ou moins. Non, alors évidemment, Bruno, ça fait bien longtemps qu'on se connaît et qu'on se côtoie et qu'on échange sur divers choses. On a fait Jamaïca ensemble aussi, on a fait d'autres projets. Et puis, on avait démarré quelque chose autour de, justement, de juxtaposition de tuiles, de trucs, de machin. Lui, il a un jeu qui avait un bout de mécanisme qui était réinjecté. Puis on tournait un peu autour quand tout à coup, il y a une sorte de révélation. Et puis, ça allait bien pour faire du Sobek 2. Donc, ça c'est un peu comme ça. Alors, il m'a invité parce qu'à l'origine, Gameworks, c'était Malcolm Braff et moi, et puis on avait fait tout le développement du jeu.
Ouais.
Et puis on a refait aussi une autre version, il y a quelques temps. Et puis là, maintenant, c'était l'occasion de faire cette version de joueurs.
Alors, comment vous avez choisi l'éditeur pour cette nouvelle version?
Oh, je crois que c'est Bruno qui les a approchés en premier. Et puis, il avait déjà un contact avec Catch-Up, avec Clément et Seb. Et puis, ils ont été assez rapidement emballés. Et puis, à partir de là, ça s'est arrêté en termes de recherche. On est tout de suite parti avec eux et c'était fait.
Je suis sûr que vous êtes content du travail éditorial sur ce jeu.
Ouais. Oui, c'est super. Ça, à la fois, alors c'est Nayad qui a illustré, ça c'est déjà une première, autant pour Bruno que moi, donc là on est très content. Ça s'est très bien fait en fait, on a eu des bons échanges. Ils ont eu le courage à un moment donné de changer de direction artistique. Il y avait une première illustratrice qui avait été engagée, qui partait dans un sens qui était assez spécial, assez beau en vrai, mais peut-être pas tout à fait juste pour ce jeu. Et finalement, ils ont dit non, c'est quand même pas ce qu'il faut. Ils ont contacté Nayad, qui est venu sur le chemin, sur le bateau, et ça a tout de suite pris un ton
cartoon,
qui nous plaît bien, qui rappelle le premier, tout en étant frais. Donc voilà, nous on est très contents en tout cas.
On a un thème cartoon sur l'Égypte là, on peut le dire.
C'est assez cartoon effectivement, comme l'était le premier Sobek au final. Donc on reste un peu dans la lignée en fait.
Alors est-ce que tu sais que c'est la deuxième fois qu'un jeu de Bruno Catala change d'illustrateur?
Je crois que les Chevaliers de la Table Ronde ont connu un tel sort.
Alors c'est King Domino.
J'allais dire, c'est peut-être pas que le deuxième, parce que je crois qu'il y a très très longtemps, il y avait eu les Chevaliers de la Table Ronde.
Qui avait aussi...
Il me semble que ça avait pas mal avancé. Mais je ne suis plus tout à fait sûr. Et il pourrait mieux répondre que moi. Mais effectivement, ce n'est pas la première fois que ça arrive.
Bah, en tout cas, on souhaite le même succès à Sobek de joueurs qu'à King Domino.
Ah bah non, écoute, ouais, moi je suis bien d'accord, moi ça me va.
Alors ceux qui ont joué aux deux versions, laquelle ils préfèrent?
Alors ça, je sais pas dire. Le fait que ça se joue qu'à deux, ne peut être comparé qu'au jeu à deux de l'original, et je pense qu'il y a quand même une préférence pour la nouvelle version. Parce qu'elle est plus aboutie, parce que la corruption est plus équilibrée et plus tendue.
Ouais.
Le jeu est un tout petit peu plus profond, donc on peut un peu plus dire si je fais ça, tu fais ça, que tu fais ça, je fais ça, tu fais ça.
Ouais.
Il me semble que c'est assez clairement la nouvelle version qui est favorite. Mais elle ne peut pas se comparer au jeu complet vu qu'elle est bridée à deux personnes.
Alors, tu as notamment sorti un nouveau jeu de joueurs en début d'année, un Botanique, qui a un beau succès. Il me semble aussi que le thème là avait changé, on est passé de l'Égypte aux fleurs.
Non, pas de l'Égypte.
C'est pas l'Égypte.
Non, c'était Jodhpur. On a beaucoup hésité et longtemps hésité avec les Space Cobbles pour lancer justement ce jeu à deux. Et un des arguments, c'était de dire peut-être qu'en l'appelant Jodhpur, comme il faut pas oublier qu'il sort des centaines et des milliers de jeux, des milliers de jeux chaque année. Il y a beaucoup de jeux à deux qui arrivent. Comment se démarquer, ça reste toujours une question. Évidemment, on connaît peut-être un peu l'auteur, on connaît peut-être un peu l'éditeur, mais néanmoins, comment on se démarque? Puis on s'était dit peut-être qu'en faisant Jodhpur, on accrochait à Jaipur, qui est un succès depuis de longues années. Et puis c'était une occasion de faire un highlight et d'attirer l'attention de façon un peu naturelle. Puis donc c'était développé, c'était illustré jusqu'au vraiment, on était prêt à imprimer.
Ouais.
Et puis il y a eu réflexion, et puis finalement il y avait peut-être la crainte que Jaipur soit, autant c'est un clin d'œil assez sympathique, et puis on peut vaguement y voir un cousin en se disant il y a cinq trucs au milieu, mais pas vraiment en fait, il n'y a pas un lien direct, mais surtout les noms sont très similaires. Et on s'est dit, mais est-ce que ça ne crée pas la confusion plutôt que d'attirer l'attention? Et puis, ça a continué à macérer comme ça. Et finalement, effectivement, il y a eu changement de thème complet. Et du coup, aussi, une volonté de travailler avec Franck Dion. Et puis voilà, puis ça s'est embrayé comme ça, en fait, au final.
Ouais, donc les Space Cobbles ont sorti leur premier jeu de la gamme de joueurs, c'était Jaipur. On a maintenant Botanique. Tu es un peu le spécialiste du jeu de joueurs?
Non, là, je crois que c'est vraiment le hasard du calendrier. Mais si on regarde que cette collection, on a l'impression que c'est moi le spécialiste. Mais c'est vraiment le hasard du calendrier. Et je ne crois pas que je sois un spécialiste. La preuve, c'est pas une preuve, mais Jaipur, c'était en 2009. Et là, Botanique, on est en 2021. Sobek de joueurs aussi. Donc, il y a quand même un certain saut entre les trois jeux.
On a eu encore aussi. Alors, c'est un jeu de joueurs, mais ça peut jouer aussi à plusieurs, non?
Oui, c'est un deux. Oui, on voulait faire un jeu de joueurs, mais qui se joue aussi à 3-4. C'était presque une sorte d'humour potache. Enfin, souvent, on voit des jeux, il y a cette espèce de slogan également jouable à deux joueurs. comme argument de vente. Puis là, on s'était dit, on faisait un truc à l'envers. On faisait un jeu de joueurs, mais également jouable à 3-4 joueurs. Mais ça reste à 2, voire 3, qu'il a tout son sel. 4, on perd un peu du contrôle. Et ça, c'est jouable, mais c'est, enfin, ça reste peut-être meilleur à 2 et 3.
Tu as eu le temps, toi.
C'est un autre jeu un peu à 2 joueurs, effectivement.
Tu as eu le temps, toi, de voir l'évolution du jeu. Il prend une place de plus importante dans les familles. Tu l'as remarqué, notamment avec le confinement.
Il me semble que ça fait surtout. J'ai l'impression que l'industrie en général se plaint pas particulièrement du confinement. Il y a bien sûr eu des chamboulements de calendrier, de livraison, de ci, de ça, et de boutiques qui pouvaient pas être ouvertes. Enfin bon, tout ce qu'on a tous subi pendant ces quelques mois. Mais de manière générale, les ventes sont plutôt bonnes. Donc il y a probablement eu un effet de qu'est-ce qu'on peut bien faire ce soir, et puis au bout d'un moment Netflix, ben ça va bien, ce qui probablement favorise le jeu. Et puis ça s'est peut-être pas mal remarqué aussi pour les plateformes de jeux en ligne comme BGA, Board Game Arena, où là ils ont vraiment vu un pic d'utilisateurs, et là il y a une sorte de on a l'impression que ça les dates sont bien se chevauche assez parfaitement pour dire que c'est lié, effectivement.
Mais il y a quelques temps, le jeu à deux ne fonctionnait pas. Il y en avait très peu de jeux à deux.
Mais je ne sais pas si c'est vraiment vrai, en fait. Parce que si on regarde la gamme Cosmos, qui date quand même d'un certain temps, qui a sorti pas mal de titres comme Les Cités Perdues de Knizia, qui est vraiment un grand classique dans le genre, ou Schottentotten. Et puis, il y a vraiment toute une gamme. Il y a eu Catan à deux, il y a toujours un peu des jeux à deux. Là, il y a peut-être un peu plus une mode, c'est possible. Je suis pas sûr. Enfin, peut-être que le confinement attire encore plus l'attention sur le jeu à deux, parce que justement, on est peut-être plus facilement confiné en couple qu'en groupe ou en famille. Mais c'est plus le jeu de société en général, j'ai l'impression, qui a pris l'ascenseur que spécifiquement le jeu à deux. Mais là, j'ai pas de données précises. Je pourrais pas. Si ça se trouve, c'est vrai, en fait. Mais je ne sais pas.
Jamaïca est l'un des grands succès que tu as fait donc avec Bruno Catala aussi. Il y aura une réédition prévue au mois de septembre.
Exactement. Jamaïca revient sous un nouveau format de boîte. Ça reste quasiment tout à l'identique.
D'accord.
De matériel, d'illustration. La boîte change, vu que le format change, donc l'illustration sera un peu différente. Mais tout le reste est extrêmement proche. Et c'est chez Space Cowboys, effectivement, et c'est pour la rentrée, donc septembre.
Donc il n'y a pas de gros changements sur cette nouvelle version.
Non, il y a une petite nuance dans la règle, mais ça devient un peu pour connaisseurs, donc je ne vais peut-être pas m'étaler là. Mais il y a une petite nuance de règle dans un des cas de figure du jeu. Mais le reste, ça reste vraiment toujours 2-6 joueurs, toujours le même concept, le même type de jeu, famille, etc., etc.
Pour finir, Sébastien, c'est quoi la suite pour toi? Tu as d'autres projets, je suppose? Des jeux qui vont peut-être sortir?
Il y a des choses qui sont signées à gauche à droite. Chez Catch Up Games, on a un nouveau jeu en binôme avec Ismaël Perrin. Alors, j'ai presque des collaborations, on va dire.
Ouais.
Chez Studio H, j'ai deux jeux. Chez Roxley, les Canadiens, chez Plan B, et chaque fois aussi avec l'équipe de Greg et Franck, ou bien avec Ismaël, comme je disais avant.
Ouais.
Enfin bref, c'est chaque fois en tant que co-auteur. Et puis, des trucs et des machins, comme on dit. Alors, pas mal de choses signées, et puis encore quelques prototypes sous le bras qui, pour l'instant, sont plus ou moins finis, mais n'ont pas trouvé d'éditeur. Après, on a un peu de contacts juste là, donc peut-être que ça favorise pas, mais c'est pas urgent non plus, puis ça permet de peaufiner. Donc des jeux qui arrivent un peu au fil du calendrier, selon ce que peuvent faire les gens.
C'est ça, quand un jeu est signé, ça veut pas dire qu'il va sortir tout de suite. C'est des jeux pour quoi? Pour 2022? Pour...
Ouais, là il y en aura encore fin d'année, je pense, peut-être un ou deux.
Ouais.
Et sinon, ce sera 2022-2023, effectivement.
D'accord.
Oui, souvent c'est signé. Puis après, y a tout le développement. Peut-être que l'éditeur aime beaucoup l'idée, mais aimerait encore peaufiner des trucs de son côté. Mais une fois qu'il est vraiment content, il y a encore tout le choix du travail d'édition, le choix des matériaux, du format de boîte, l'illustrateur, le travail de l'illustrateur, les règles, les traductions, etc., etc. Donc souvent on signe, mais c'est pas pour la semaine d'après qu'on peut se réjouir de recevoir sa boîte. C'est souvent 6 mois, une année, 18 mois, enfin ça dépend.
Eh ben merci beaucoup Sébastien d'avoir été sur Millennium et on aura certainement l'occasion de se reparler.
Ok, merci beaucoup pour l'accueil.
À bientôt, au revoir Sébastien.
Bye bye.
Allez, nous, on revient d'ici quelques minutes avec l'indispensable de la semaine. Et l'indispensable de cette semaine, c'est Winspan.
C'est ludique, l'indispensable de ta ludothèque.
Alors, il est très rare dans les jeux de société modernes de construire des volières et d'avoir pour thème principal les oiseaux. Et pourtant, ce jeu a reçu le Kenner Spiel en 2019. Voici Winspan, un jeu d'Elizabeth Hargrave, localisé en France par Matago. Dans Winspan, chaque joueur construit des volières pour marquer le plus de points. Mais avant de vous parler du jeu, faisons un arrêt sur le matériel fourni. Des plateaux de joueurs colorés divisés en 3 habitats, 170 cartes avec des illustrations uniques et magnifiques d'oiseaux, des œufs en plastique avec des couleurs pastel, des dés en bois personnalisés que vous lancerez dans une tour à dés de style mangeoire à oiseaux, même le livre de règles a une finition particulière. Niveau matériel, on peut le dire, c'est tout simplement magnifique. Alors dans Winspan, qui se joue aussi bien de 2 à 5, il y a même un mode solo, vous allez essayer d'attirer des oiseaux dans vos volières individuelles. Les oiseaux sont représentés par des cartes qui se posent dans l'une des 3 rangées de votre plateau de joueur. Les rangées représentent les 3 habitats de vos oiseaux, la forêt, la prairie et les marais. Ces différents habitats vont proposer différentes actions qui vous permettront, à force de les remplir, de comboter les capacités de vos oiseaux. A votre tour, vous pourrez choisir une des 4 actions du jeu et une seule, à savoir gagner plus de nourriture, pondre des œufs, piocher plus de cartes oiseaux et enfin jouer des cartes oiseaux sur le plateau. Pour faire l'une de ces actions, il suffit de placer votre petit cube en face de la ligne. Vous en avez 8 au début, ce qui vous permet de faire 8 tours à la première manche, puis 7, puis 6 et enfin 5 lors de la dernière manche. Voyons maintenant ces actions en détail. L'action de la forêt vous permet de récupérer des ressources alimentaires, c'est-à-dire de récupérer des dés dans la tour à dés et de les convertir en jetons nourriture appropriée. L'action des prairies vous permet de pondre des œufs dans les nids d'oiseaux déjà présents sur votre plateau. Vous verrez que les nids ne sont pas tous pareils et tous les oiseaux ne peuvent pas pondre autant d'œufs. L'action zone humide, les marais, vous permet de piocher plus de cartes oiseaux. Et un endroit supplémentaire tout en haut de votre plateau vous permet de jouer les cartes oiseaux elles-mêmes. Plus vous allez avancer dans les différents habitats et plus vous aurez de bonus. Vous avez vu le jeu, comme ça paraît simple, une seule action à choisir parmi 4. Mais selon votre façon de jouer, vous allez avoir une volière plus intéressante. Car pour jouer une carte oiseau, vous devez la placer dans le bon habitat et payer la nourriture dont il a besoin. Certains oiseaux ne pourront poser leur nid que dans certains habitats. Les cartes ont des pouvoirs qui ne se déclenchent pas au même moment. Les blanches, c'est au moment de la pause, lors de l'action, jouer un oiseau. Les marrons ont un pouvoir d'activation lors d'une action correspondante à la zone d'habitat où est présent l'oiseau. Les roses ont un pouvoir qui s'activera lorsqu'un adversaire réalise l'action indiquée. Et si poser une carte dans la première colonne ne nécessite aucun coût supplémentaire, les deuxième et troisième colonnes vous demandent également de défausser un œuf d'un oiseau de votre plateau. Et les quatrième et cinquième vous demandent cette fois de défausser 2 œufs. Autant dire qu'il va falloir faire pondre vos oiseaux. En revanche, plus il y aura d'oiseaux posés dans une ligne d'habitat, plus l'action sera puissante. Chaque action ou presque déclenche, en plus de l'action elle-même, les pouvoirs des oiseaux de la même ligne, provoquant ainsi des combos. Mais alors, comment on gagne ? Le jeu se joue en 4 manches. Chaque manche à 8, 7, 6 ou 5 tours. À la fin des 4 manches, on procède au décompte final. Tout va compter, les oiseaux posés, les œufs et cartes posées sous chaque oiseau, les ressources, les cartes bonus, les objectifs secrets et les points de victoire que vous avez récupérés lors du décompte de majorité de chaque manche. Et oui, chaque tour a un objectif distribué à partir d'une section aléatoire qui attribue un bonus basé sur le classement des joueurs par rapport donc à un objectif. Ça peut être celui qui a le plus d'œufs sur les oiseaux qui construisent un nid ou celui qui a le plus d'oiseaux dans sa prairie. Winspan est une réussite ludique, aussi bien au niveau du matériel que de la mécanique. Les nouveaux joueurs n'auront pas de mal à appréhender le jeu qui n'est pas compliqué et les joueurs plus experts apprécieront le système de jeu et le fait de créer son moteur. Le nombre d'actions, 4 seulement, est faible et pourtant il faudra anticiper pour mettre en place votre stratégie. Winspan, c'est un gros coup de cœur. Il fait partie hein, de mon top 3. Je finirai par une chanson de Pierre Perret. Ouvrez la cage aux oiseaux et regardez les volets très haut. En tout cas, Winspan s'envole depuis qu'il est sorti parmi les meilleures ventes de jeux de société. Et c'est bien mérité.
Alors Karine, on vient de jouer à Winspan. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta stratégie ?
Bah, ma stratégie, ça a été déjà l'objectif. J'avais un objectif à atteindre, donc je me suis concentrée sur les objectifs, à savoir un oiseau avec le nom d'une partie de son corps dans son nom. Donc voilà, c'était mon premier objectif de réussir à placer ça. Donc j'ai réussi et j'ai eu des bonnes cartes.
Et tu as pondu beaucoup.
Et j'ai pas mal pondu, ouais. j'ai eu de la chance de tomber sur des oiseaux qui rapportaient beaucoup de points, donc c'était important au final que j'en ai un qui avait 9 points. Donc au final, ça a fait la différence, je pense, pour gagner cette partie.
Alors 9 points, mais il fallait le nourrir à 9 points.
Fallait le nourrir, mais en fait, j'avais une autre carte justement d'un autre oiseau qui me permettait d'avoir des ressources pour le nourrir avec les œufs. Donc tout
s'est bien goupillé.
Tout s'est bien goupillé, voilà.
Qu'est-ce que t'as pensé du jeu ?
Alors, j'ai trouvé très sympathique. Je regrette par contre de ne pas avoir pris le temps de lire tous les petits oiseaux, toutes leurs petites caractéristiques, parce que je pense qu'il est vraiment intéressant à prendre le temps de plus avoir le temps de lire. Mais là, j'étais plus dans la compréhension du jeu et pas faire n'importe quoi.
Merci Karine.
Si ludique, ça vient de sortir.
Et oui, ça vient de sortir dans le jeu Lama Land. Vous êtes un fermier en montagne, autant dire qu'il y a quelques pentes et que la culture de vos champs ne va pas être si simple avec toutes ces terrasses. Vous cultivez des pommes de terre, du cacao et du maïs. Votre but est d'attirer des lamas. Lama Land est un jeu de Phil Walker Harding, édité par Funforge. Et la thématique est plutôt originale. Au niveau matériel, on a de grandes tuiles en forme de polyomino hein, qui représentent les champs et qui sont d'ailleurs de très bonne qualité, bien épaisses, c'est important hein, car vous allez devoir les superposer et ça ne bouge pas. On retrouve des symboles dessus, il y a des cartes objectifs, des meeple lama, des cartes lama, les jetons cacao, pommes de terre et maïs, ainsi que des pièces, des pions objectifs, ainsi que des cartes personnages qui vous donneront quelques pouvoirs. Alors en début de partie, chaque joueur a un plateau terrain, un carré hein, de 4x4. On installe les cartes objectifs ainsi que les cartes lama, mais pour les obtenir, il faudra les nourrir. Et pas de panique, ceux-là ne vous cracheront pas dessus, hein, ils sont en bois. Bref, revenons à nos moutons, non plutôt à nos lamas, la bonne blague. À votre tour, vous allez soit pouvoir agrandir votre domaine en prenant des tuiles polyomino champs dans la pioche, puis vous les mettez à côté en respectant les règles de pose, hein, c'est-à-dire que la tuile doit être adjacente déjà à votre domaine. Vous pouvez aussi placer l'un de vos jetons hein, sur les cartes objectifs. Et puis si en fin de partie, vous les avez réalisés, jackpot, vous gagnerez les points. Un objectif peut être par exemple en fin de partie, avoir 4 cartes lama d'une catégorie. Par exemple la catégorie du cacao. La deuxième action possible, c'est de construire. Là, ça vous permet de faire des étages, des petites terrasses. Hein, c'est-à-dire que vous allez superposer vos tuiles sur les autres. Mais il y a une condition, hein, vous ne pouvez pas laisser un espace vide en dessous et puis pas mettre les mêmes non plus. Hein. Toutes les icônes ressources comme le cacao, le maïs, les pommes de terre ou l'argent qui sont recouvertes, eh bien vous allez les récupérer en prenant des jetons. Vous allez ensuite pouvoir échanger ces ressources pour obtenir des lamas. Si vous avez 4 jetons cacao, vous pouvez prendre en échange un lama que vous posez dans votre prairie et qui vous permet d'obtenir une carte lama de sa catégorie ressources. Plus vous prenez les cartes en premier, et plus vous aurez de points en fin de partie, car elles sont rangées par ordre décroissant. Le premier gagne plus de points que le deuxième, et ainsi de suite. Selon le nombre de joueurs, il n'y aura pas le même nombre de cartes lama au début. Alors c'est bien d'avoir des lamas dans ces champs, mais du coup, attention, car vous ne pouvez pas les recouvrir quand vous faites l'action construire. À vous de bien anticiper et d'avoir une stratégie pour les placer sur vos tuiles. Si en construisant vous recouvrez une hutte, vous pouvez prendre une carte personnage qui vous donnera un petit pouvoir quand vous le souhaitez. Et ça c'est plutôt bien pratique. Par exemple, si vous récupérez un fermier et que vous recouvrez 2 ressources identiques, il vous permet d'en prendre une en plus. Au début de partie, vous aurez pris 3 tuiles fondation, un carré de 1 par 1. À tout moment, lors de votre construction, vous pouvez les insérer car ça permet de boucher un trou pour pouvoir poser une tuile champ par-dessus. Il est aussi interdit de poser une tuile de la même forme sur une tuile déjà présente. La partie s'arrête quand il ne reste plus qu'une seule catégorie de cartes lama ou 4 tuiles champs dans la pioche. Tout le monde finit son tour et on calcule les points On prendra en compte les cartes lama, les objectifs et le reste des jetons. En tout cas, c'est agréable de voir son terrain grandir comme ça, de poser ses lamas avec ses différentes hauteurs. Un court instant, on s'imagine, dans la cordillère des Andes. Allez, ce jeu en tout cas a bien plu, un jeu familial, et c'est Maëlle qui vous en parle. Bonjour Maëlle.
Bonjour.
Alors on vient de jouer à quoi Maëlle?
Lamaland.
Alors Lamaland, c'est quoi le principe du jeu?
Bah on a des lamas et on a des tuiles. Au début on commence avec une tuile avec de l'herbe, des patates, du maïs et du cacao et des villes.
D'accord.
Et le cacao, tout ça, ça sert à acheter des lamas. Mais pour acheter des lamas, il faut poser des tuiles dessus. Et par exemple, t'as une tuile en forme comme Tetris. Et si je veux, par exemple, mettre la forme sur le plateau, bah là, du coup, ce qui est en dessous la tuile, je vais les récupérer.
D'accord.
J'ai pas le droit de remettre la même tuile dessus, sinon je peux monter très haut.
D'accord. Alors, c'était quoi, toi, ta stratégie?
Bah, moi, ma stratégie...
Parce qu'il y a des objectifs aussi.
Ouais. Moi, ma stratégie, j'essayais déjà au début de récolter beaucoup de maïs, de patates, tout ça. Et après, quand je suis beaucoup avancée, je commence à faire mes objectifs.
Et c'était quoi ton objectif alors que t'as...
Bah, moi, j'ai fait, par exemple, les lamas patates.
Ouais.
Où tu les achètes avec des patates.
Il t'en fallait combien?
Il m'en fallait 4.
D'accord.
J'ai fait, par exemple, un lama qui devait être à 11 carreaux de plus de loin que l'autre.
Ouais.
Et 6 lamas aussi qui devaient être pas à côté d'un bord ou d'un trou.
D'accord. Et t'as réussi tes 3 objectifs?
Oui.
Bah bravo Maëlle.
Merci.
C'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Et oui, c'est encore l'heure de jouer dans C'est ludique. À quelques jours du grand départ du Tour de France en Bretagne, je vais vous parler d'un petit jeu dont la thématique est le vélo. Et c'est plutôt rare, un jeu de cartes signé Bruno Catala, un auteur que vous commencez à connaître si vous suivez C'est ludique. Un jeu de cartes fabriqué entièrement en France, qui est édité par le studio Stratosphère. Alors si ce nom vous dit rien, c'est normal. Mais si je vous parle de leur tapis Vogamat, tout de suite ça vous dit quelque chose. Mais aujourd'hui on est là pour parler de leur jeu Vélomino, un jeu qui a été tiré à 500 exemplaires pour le Tour de France en 2020, retiré à de nombreux exemplaires depuis puisqu'il fait partie des meilleures ventes aujourd'hui. Alors les amis, c'est parti, on prend sa bicyclette et on essaie de gravir les sommets pour remporter le maillot petit pois carotte. Et les premiers à franchir à l'école auront plus de points. Vous l'avez compris, dans ce jeu il y a beaucoup d'humour, comme les illustrations des cartes d'ailleurs. On retrouvera une tortue, un lièvre, un dromadaire et tous ces animaux, eh bien, sont sur des vélos. Vélomino est un jeu de défausse où vous aurez le droit de jouer vos cartes ensemble si elles ont le même numéro ou la même couleur. 3 cartes roses par exemple ou 3 cartes avec le numéro 4, le but étant de ne plus avoir de cartes en fin de manche. Alors en début de partie, chaque joueur va recevoir 11 cartes. Parmi ces 11 cartes, vous pouvez avoir des cartes leader avec des numéros importants de 25 à 50, on va y revenir. Comme dans une course, il y a des échappées et vous allez tenter de rejoindre celle-ci en attaquant. Voilà comment ça se passe. Vous jouez une carte avec le numéro 2. Le coureur suivant devra jouer une carte au-dessus, un 3, un 4, un 5, bref, au-dessus de 2. Mais vous pouvez mettre 2 cartes ou plus si elles ont le même numéro ou la même couleur. Dans ce cas, si vous mettez 2 cartes, vous allez calculer 10 points par carte en ajoutant le nombre le plus petit. Si vous mettez 2 cartes vertes, une avec le chiffre 2 et une avec le chiffre 4, ça vous fait 22 points, oui, puisque 2 cartes, 10 x 2 plus 2, qui est le plus petit nombre. Le joueur suivant devra contre-attaquer et être au-dessus de 22 pour rejoindre l'échappée. Il pourra mettre 3 cartes avec le nombre 4, par exemple. Là, ça lui fait un total de 34 points. 3 cartes à 10 points plus le chiffre 4. S'il veut, il peut aussi jouer un leader lièvre avec 45 points. Dans ce cas de figure, une seule carte est autorisée. Et à tout moment, vous pouvez passer votre tour, sachant que vous pourrez reprendre l'échappée plus tard et contre-attaquer quand votre tour reviendra. Mais ne tardez pas à rejoindre les coureurs devant pour qu'ils ne prennent pas trop d'avance, car le but est bien de liquider vos cartes. Dès qu'un cycliste n'a plus de cartes, il atteint le premier col et remporte les points du meilleur grimpeur. L'étape ne s'arrête pas. Quand tous les coureurs ont passé la ligne d'arrivée et que chaque coureur, sauf le dernier, a récupéré ses points. Le joueur possédant le plus de points depuis le début de la course remporte le maillot petit pois carotte, qui vous donnera un bonus de 10 points sur une combinaison lors de la manche suivante. À chaque col, il y en a 5, la difficulté augmente. Alors pas dans le jeu, mais les points sont plus importants. Un jeu qu'on croit simple, mais il faut bien réfléchir pour mettre en place une stratégie. Sachant que celle-ci peut être modifiée à tout moment car il y a la tortue, celle qui a le chiffre 1. Elle permet au joueur qui la pose de piocher une carte au hasard chez un adversaire de son choix. et de lui en redonner une. Du coup, bah, vous pouvez sans le vouloir supprimer une série de cartes chez votre adversaire. Une chose est sûre, plus on est nombreux, 5 maximum, plus la course sera compliquée. Bon, c'est pas tout, mais il va falloir attaquer. Mais attention, comme dit la fable de la fontaine, du lièvre et de la tortue, rien ne sert de courir et il faut partir à point. Des points, il vous en faudra si vous souhaitez ramener le maillot petit pois carotte. Voilà, c'était Vélomino. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau et dernier numéro de C'est Ludique avant la rentrée de septembre. Bien sûr, C'est Ludique reviendra en septembre. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que chaque jour, je vous présenterai un jeu dans l'été C'est Ludique dans l'émission du matin. Voilà, nous, on se retrouve donc la semaine prochaine avec une spéciale dans l'espace et au-delà. Salut, jouez bien !